Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En ce 18 juin 2012, on célèbre notamment deux anniversaires. Bien sûr, le 72e anniversaire de l'appel du général de Gaulle sur les ondes de la BBC, mais aussi le 40e anniversaire de l'immense croix de Lorraine érigée en 1972 à Colombey, les deux églises. Et sur Europe 1, Franck Ferrand va nous aider à remettre tout cela en perspective. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le 40e anniversaire de l'immense croix de Colombey fait l'objet au mémorial Charles de Gaulle d'une expo sur laquelle nous reviendrons pour clore cette émission. Mais auparavant, c'est bien au 18 juin 1940 que j'aimerais revenir. Vous savez qu'il y a un autre 18 juin très célèbre dans l'histoire, c'est le 18 juin 1815. Mais celui-là, on en avait parlé l'année dernière, c'était la bataille de Waterloo, bien sûr.
Exactement. Alors vous me disiez que l'histoire de cet événement du 18 juin 1940, fondateur de la résistance, a longtemps été simplifiée.
Oui, on s'est contenté pendant des décennies d'une version officielle un peu arrangée. Ce que je vous propose aujourd'hui, en compagnie de mes invités, c'est de revivre cet événement tel qu'il s'est déroulé réellement. En tout cas, on va essayer de l'approcher au plus près.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
C'est par la radio que le tout nouveau général de Gaulle, il vient d'avoir ses deux étoiles, apprend dans la nuit du 5 au 6 juin 1940 que le président du Conseil, Paul Reynaud, à l'occasion d'un remaniement, vient de le nommer au poste de sous-secrétaire d'État à la Défense nationale. Sous-secrétaire d'État, le titre est relativement modeste, mais attention, à la Défense nationale, on est en temps de guerre. C'est donc, vous l'avez bien compris, un poste extrêmement important et qui fait d'un seul coup passer de Gaulle devant de nombreux officiers généraux beaucoup plus gradés que lui sur le papier. Important parce que ça le place également au cœur de l'événement. Sans cette nomination, de Gaulle n'aurait probablement pas pu devenir l'homme du 18 juin. Ça va lui permettre ce poste ministériel. Ça va lui permettre d'une part d'être au cœur de l'information, d'avoir toutes les nouvelles à mesure qu'elles arrivent. Ça va lui donner des contacts au plus haut niveau et notamment avec Churchill, pour lequel il ne sera plus un inconnu. Et puis ça lui donnera tout simplement des moyens logistiques et dans les jours qu'il va vivre, vous allez voir à quel point ça peut être essentiel. Le général est donc sous-secrétaire d'État. Il a une idée fixe, déjà poursuivre la guerre, ailleurs et avec d'autres moyens, alors que tout l'état-major français ne pense plus qu'à hâter l'armistice. Et alors que le gouvernement se replie, le général de Gaulle suggère qu'on se replie en Bretagne. Pourquoi pas la Bretagne, dit-il, elle est encore intouchée. On parle d'un réduit breton. Il va trouver contre lui, sur cette idée-là, un adversaire inattendu en la personne de l'égérie de Paul Reynaud, la comtesse de Porte. « Je n'ai jamais pu dormir dans un lit breton », dit-elle en pleine séance de conseil restreint. « Je refuse de discuter des intérêts supérieurs de la patrie dans une atmosphère de volière », conclut le nouveau sous-secrétaire d'État à la Défense. Surtout, plus que la Bretagne, c'est la Grande-Bretagne que vise de Gaulle. Son idée est de s'y replier pour reprendre en main l'Empire. Il ne faut pas oublier qu'on a à l'époque un grand nombre de colonies qui peuvent constituer une base arrière en vue de la reconquête du pays. Et évidemment, tout cela n'est pas du tout l'opinion dominante, opinion défaitiste à la suite de l'effondrement militaire français et que symbolise le généralissime Weygand. De Gaulle rencontre Weygand dans l'Essonne le 8 juin. Le 9, il est envoyé par Paul Reynaud à Londres. Ça, c'est une étape essentielle. Ce 9 juin est un dimanche. Imaginez une belle matinée ensoleillée, ce qui n'est pas si fréquent à Londres. De Gaulle est introduit chez le Premier ministre Winston Churchill et tout de suite, on peut dire qu'il est conquis. Il se trouve enfin en présence d'un homme dont la trempe lui paraît à la mesure des événements terribles du moment. Mon impression m'a fermé dans la conviction que la Grande-Bretagne, conduite par un pareil lutteur, ne flancherait certainement pas, écrira le général de Gaulle. Monsieur Churchill me parut être de plein pied avec la tâche la plus rude, pourvu qu'elle fût aussi grandiose. L'assurance de son jugement, sa grande culture, la connaissance qu'il avait de la plupart des sujets, des pays, des hommes qui se trouvaient en cause, enfin sa passion pour les problèmes propres à la guerre s'y déployait à leur aise. Par par-dessus tout, il était, de par son caractère, fait pour agir, risquer, jouer le rôle, très carrément et sans scrupule. Bref, je le trouvais bien assis à sa place de guide et de chef. Telles furent mes premières impressions. On se rappelle le jugement du général de Gaulle sur Churchill, le grand champion d'une grande entreprise, le grand artiste d'une grande histoire. Nul doute que, de son côté, Churchill a pu jauger de Gaulle et apprécier en lui un homme de caractère. Ça va jouer, ça aussi, cette impression-là va jouer un rôle décisif pour la suite. Bref, les deux hommes se reverront en présence du président Reynaud à Briare le 11 juin, puis à Tours le 13, mais c'est le 16 juin à Londres, au 10 Downing Street, qu'ils sont de nouveau en présence et qu'ils ont cette entrevue capitale. Ce jour-là, à 16h30, le général de Gaulle parvient à joindre au téléphone depuis Londres le président du Conseil. Le Conseil des ministres s'est replié à Bordeaux, tout le gouvernement. En France, l'invasion éclair des Allemands a semé une pagaille intégrale. Il faut imaginer, bien entendu, cet état d'urgence extrême. Le bruit court que le gouvernement va démissionner et de Gaulle supplie Paul Reynaud de tenir bon. Tenez encore quelques heures, monsieur le président, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Et finalement, la nouvelle, elle arrive, c'est Churchill qui surgit de la salle du Conseil, qui a arraché à son propre gouvernement cette déclaration qui proposait que la France et la Grande-Bretagne ne soient plus deux nations, mais une seule nation franco-britannique indissoluble. Ça, c'est évidemment une très grande proposition et ça peut tout changer. Le soir même de cet historique 16 juin 1940, dans l'avion qu'il ramène de Londres à Bordeaux, le général de Gaulle est au comble de l'excitation. Ce projet d'union franco-britannique, disons-le, a outrepassé ses plus folles espérances. Il est 21h30 quand son avion se pose sur l'aérodrome de Mérignac. Deux collaborateurs se précipitent. Ils sont porteurs d'une mauvaise nouvelle. Il faut savoir que 6 membres du gouvernement sur 17, 6 membres seulement, ont accepté ce projet d'union. Tous les autres ne veulent plus entendre parler que d'armistice. Paul Reynaud est mis en minorité au sein de son propre cabinet. Il a été obligé de démissionner. Et le président Albert Lebrun, le chef de l'État, vous savez ce que disait le général de Gaulle, pour qu'il fût chef de l'État, il lui manquait deux choses, qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. Lebrun a nommé pour remplacer Reynaud le chef de file des partisans d'un armistice avec les Allemands, le héros de la Grande Guerre, l'ancien patron de Gaulle lui-même, le maréchal Pétain. De Gaulle dira « Ma décision fut prise aussitôt, je partirai dès le matin ». Juste une parenthèse à ce propos, j'ai dit que Pétain avait été le patron de Gaulle. Il faut savoir qu'en 14, le colonel Pétain dirigeait le régiment d'Arras où se trouvait le jeune lieutenant de Gaulle qui avait 24 ans à l'époque. En mars 1916, le général Pétain décerne au capitaine de Gaulle une citation élogieuse. « Officier hors de pair à tous égards », écrit-il. En octobre 25, le maréchal Pétain, inspecteur général de l'armée, prend ce brillant officier dans son cabinet et il le présente pour une conférence à l'école de guerre avec ces mots plus que flatteurs. « Écoutez, messieurs, le capitaine de Gaulle, écoutez-le avec attention, car un jour viendra où la France reconnaissante fera appel à lui. » Ça, c'est ce qui s'appelle une forme de préscience. C'est bien, je précise, le maréchal Pétain qui dit ça de Gaulle. On était en 1927. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était le soir du 14 juin dans la salle à manger du Splendide à Bordeaux. Une poignée de main sans un seul mot. Et puis, ils se sont écartés leur chemin. C'était déjà séparé, disons-le. Je ferme la parenthèse. Donc, de Gaulle a pris la décision de quitter Bordeaux au plus vite. Alors, dans ses mémoires, cette ultime nuit bordelaise est expédiée en quelques mots. « Tard dans la soirée, écrira-t-il, je me rendis à l'hôtel où résidait Sir Donald Campbell, ambassadeur d'Angleterre, et lui fit part de mon intention de partir pour Londres. Le général Spears, qui vint se mêler, c'est donc l'attaché britannique auprès du gouvernement français, le général Spears, qui vint se mêler à la conversation, déclara qu'il m'accompagnerait. Et puis, dira le général de Gaulle, le départ eut lieu sans romantisme et sans difficulté. » Ça, c'est quand même ce qui s'appelle manier l'ellipse. Le général a compris que les mythes, les légendes, se construisent sur le mystère et à partir de peu de mots. Il a lui-même contribué à accréditer l'image d'un homme étranger au doute, comme miraculeusement appelé par le destin et qui, sans une once d'hésitation, aurait décidé dans l'instant d'assumer seul l'honneur de la France et la légitimité de ses institutions. La réalité, vous pouvez vous en douter, est un peu différente. Pour tenter de la cerner, il faut recourir à d'autres témoignages. On nous dit que vers minuit, le général a réuni quelques-uns de ses collaborateurs et leur a déclaré « Voilà, je vais partir pour Londres ». Et son chef de cabinet, Jean Laurent, lui remet 100 000 francs que Paul Reynaud a prélevés sur les fonds secrets. « J'irai vous rejoindre, voilà la clé de mon appartement à Seymour Place », lui dit-il. Le grand témoignage, même s'il faut le prendre avec beaucoup de pincettes, c'est celui du major général Spears, justement, cet agent de liaison entre les deux gouvernements, qui, lui, au contraire du général de Gaulle, s'est longuement et, disons-le, complaisamment étendu sur les circonstances qui devaient préluder à ce départ du général pour Londres et à ce mythique appel du 18 juin. Il nous raconte, il nous montre un de Gaulle angoissé, pâle, dans le hall de l'hôtel où se négocie toute cette situation très précipitée. Il faut imaginer que tout le monde, bien sûr, est un peu aux abois. Il se donne, Spears, le beau rôle. À l'entendre, c'est quasiment lui qui aurait jeté le général dans l'avion. Nous allons voir tout à l'heure en compagnie de nos invités ce qu'il faut penser de la réalité. En tout cas, le général de Gaulle décolle de Bordeaux. Il va passer au-dessus d'une France qui est en partie en flammes. Il passe au-dessus de la Palisse, vous savez, le port militaire de La Rochelle, où le Champlain est couché sur le flanc avec 2000 hommes de troupes britanniques à bord. Partout des fumées, des incendies. Les Allemands ont mis le feu au dépôt de carburant. Enfin, pas les Allemands, les armées ont mis le feu au dépôt de carburant devant l'arrivée des Allemands. Il fait une escale à Jersey où on lui sert un café qu'il prend pour du thé. Il faisait connaissance avec ce liquide pâle et tiède qui en Angleterre tient lieu tantôt de thé, tantôt de café, écrit Spears. Son martyre commençait. Et puis, dans le petit avion où, selon le mot de Churchill, il emportait avec lui l'honneur de la France, tandis que Spears s'active à rédiger une note pour le Premier ministre, eh bien de Gaulle est droit. Il est silencieux, le regard dans le vide. « Je m'apparaissais à moi-même, écrira-t-il, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. »
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous vous retrouvons, Franck, sur Europe 1 avec votre premier invité, Éric Roussel, qui est historien, journaliste, président de l'Institut Pierre Mendès France. Il a notamment publié les biographies de Jean Monnet, Pierre Mendès France, Charles de Gaulle, Georges Pompidou et Pierre Brossolette.
Et oui, Éric Roussel, que connaissent bien nos auditeurs. Bonjour, cher Éric, merci d'être avec nous. Alors, nous avons quitté le général de Gaulle à la veille du 18 juin. Que s'est-il réellement passé? Pendant très longtemps, on a bien entendu diffusé, moi-même j'ai appris, enfin tout le monde a appris à l'école, les grandes phrases tellement magnifiques de ce discours du 18 juin. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Et alors là, le général qui dit finalement « Nous avons, la France en gros a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre », et qui conclut « Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Alors, ça, c'est le texte officiel tel qu'il a été définitivement formalisé seulement le 15 août 1940, est-ce qu'il faut dire. Et en fait, d'année en année, depuis la fin des années 60, on s'est mis à découvrir d'autres versions. Alors, il y en a tout un tas, et pour cause, on est actuellement à 7 versions de ce texte. Il y en a au moins 4 qui ont été écrites avant et qui, semble-t-il, étaient très proches de cette version officielle que le général de Gaulle a finalement fixée pour l'histoire et qui aura été plus tard enregistrée par Pierre Dux. On entendra tout à l'heure un extrait évidemment de ce célèbre appel du 18 juin, réenregistré puisque la BBC ne l'a pas enregistré le jour même. Donc des textes qui ont été, semble-t-il, barrés par le Foreign Office, les Britanniques ne voulaient pas aussitôt se mettre trop mal avec le gouvernement français, le nouveau gouvernement du maréchal Pétain. Il y a ensuite le texte réel qui a été lu et qu'on a grâce à 2 transcriptions qui sont parues dans la presse, et puis le texte donc officiel qui paraîtra lui beaucoup plus tard. C'est François Delplat qui a analysé ça extrêmement en détail dans un ouvrage qui s'appelle « La face cachée » de 1940, comme comment Churchill réussit à prolonger la partie. Il est allé fouiller dans toutes sortes de fonds d'archives, dans un certain nombre de fonds privés. Et il nous dit que finalement, l'image que l'on a du départ du général de Gaulle de Bordeaux, du rôle de Georges Mandel, du rôle de Jean Monnet, que vous connaissez mieux que quiconque, Éric Roussel, et puis bien sûr des relations initiales entre Churchill et de Gaulle, tout ça a longtemps fait plus partie de la légende que de la réalité.
Oui, c'est tout à fait exact. Et cela dit, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que les découvertes qui ont été faites récemment, au fond, dans les 15 dernières années à peu près, ne remettent pas du tout.
Ça ne remet pas en cause le fond. Enfin, on est là pour faire de la petite histoire.
Non, mais il fallait vous mieux le dire.
Oui, bien sûr.
On n'est pas non plus dans la polémique.
Non, du tout.
En réalité, la seule chose qui me paraît vraiment importante, c'est le début, c'est l'attaque de ce discours qui est passé, comme vous l'avez dit, à la postérité. Et on sait maintenant qu'au lieu de cette attaque flamboyante sur attaquant les chefs militaires et le gouvernement qui avait été formé par eux, donc selon le général à Bordeaux, en réalité, la version diffusée par la BBC est différente. Et cette attaque a été remplacée par la formule suivante. Un gouvernement a été formé, l'armistice a été demandé, il faut attendre en quelque sorte l'ennemi donne sa réponse. Enfin, c'est une formule qui est beaucoup plus plate, si vous voulez.
Bien sûr, oui.
Et pourquoi ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que il y a aucun doute sur le fait que le général, à la radio, n'a pas prononcé les paroles qui ensuite sont passées à la postérité. Et pourquoi ? Ben, tout simplement parce que le 18 juin, et ça on le sait de façon sûre, il a déjeuné avec Duff Cooper, qui était le ministre de l'information britannique, qui a été en quelque sorte le premier gaulliste, sinon l'un des premiers, en tout au moins. Et est-ce que le général a donné à Duff Cooper un texte écrit ? Quand Henri Amouroux a écrit son livre sur le 18 juin, il a eu le privilège d'être reçu par le général de Gaulle. Il lui a posé la question, il a dit « Mon général, avez-vous donné le texte aux Anglais ?» Il dit « Moi, de ma vie, je n'ai jamais donné un texte à lire à qui que ce soit avant. » Bon, ce qui est possible, et là on a un témoignage, j'ai utilisé un témoignage de Geoffroy de Courcelles, qui figure dans ses archives. Geoffroy de Courcelles dit, malgré qu'il assistait à ce déjeuner,
qui est chef du cabinet,
qui était le premier collaborateur, même s'il n'avait pas de rôle officiel, était l'aide de camp, disons, du général.
L'aide de camp, voilà.
Et il l'avait suivi, il était le seul à le suivre à Londres. Geoffroy de Courcelles admet que le général a tout de même donné des détails sur ce discours.
Et que les Anglais ont cherché à temporiser. Ils ont eu peur de ce qui allait se passer.
Pas tellement Duff Cooper. Duff Cooper était quelqu'un, il avait été très anti-munichois, c'était quelqu'un qui était plutôt combatif. Mais Duff Cooper, malheureusement, n'était pas seul. Et il y avait le cabinet britannique. Et le cabinet britannique, quand il a eu ce qui tend à prouver quand même qu'ils ont eu une version écrite. Quand le cabinet britannique a eu connaissance de ce que voulait dire le général, il dit, bon, le texte de l'appel ne pose pas de problème, mais l'attaque nous paraît prématuré dans la mesure où il y a un gouvernement à Bordeaux. Il ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur la possibilité de résistance à partir du moment où le maréchal Pétain avait été placé à la tête de ce gouvernement. Il savait à quoi s'en tenir. Mais il ne voulait pas quand même insulter l'avenir. Il pensait que c'était un peu prématuré. Donc il y a eu une réunion du cabinet britannique, ça on le sait, il y a des archives. Et je crois que d'ailleurs que le premier qui a publié ces archives, c'est Maurice Schumann, dans un livre consacré au 18 juin, un livre qui est très bon d'ailleurs. Et le cabinet britannique a autorisé finalement, une extrémiste d'ailleurs, la diffusion de cet appel, mais à la seule condition que le général modifie l'attaque de ce... Et alors, on sait que les paroles ont été changées, puisque le lendemain, plusieurs journaux paraissant en France ont diffusé cette version légèrement différente, et on a aussi un rapport des services suisses, d'écoute suisse,
qui permet d'avoir au mot près le message.
Et encore tout récemment, on m'a envoyé un journal du centre de la France qui a diffusé exactement
l'appel réellement.
Donc je crois qu'il n'y a plus de discussion.
Alors le 17 juin, la veille, le maréchal Pétain s'adressait aux Français, parce qu'il ne faut pas oublier que cet appel du général de Gaulle le 18 juin, c'est la réponse évidemment à ce message du maréchal Pétain que nous écoutons maintenant.
Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, effacèrent leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
Alors voici, ça c'était le document officiel, authentique, de l'adresse aux Français du maréchal Pétain. Et voici ce que Pierre Dux donc a réenregistré sur le texte officiel du général de Gaulle, un peu plus tard dans l'année, c'était au mois d'août 1940, mais ça nous donne une idée de ce qu'a dû être l'appel du 18 juin du général de Gaulle depuis la BBC de Londres.
Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique terrestre et aérienne.
On reconnaît plus la voix de Pierre Dux, disons-le, que celle du général de Gaulle, même si les deux étaient assez proches l'une de l'autre. Dans un instant, nous revenons sur tout le contexte et sur la relation très particulière entre de Gaulle et Churchill.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Nous sommes toujours sur Europe 1 en compagnie de l'historien Éric Roussel. Nous a rejoint Alexandre Duval-Stalla. Je rappelle qu'il est avocat barreau de Paris. Il est bien connu lui aussi des auditeurs d'Europe 1 et auteur notamment d'André Malraux, Charles de Gaulle. Une histoire de légende chez Gallimard, Franck.
Ce sont des portraits croisés de Gaulle et Malraux. Un superbe ouvrage d'Alexandre Duval-Stalla qui a déjà 3-4 ans maintenant, il faut bien le dire. Bonjour Alexandre, merci de nous rejoindre. Pendant les premières semaines, on peut dire quand même qu'il y a une certaine improvisation autour du général de Gaulle qui déjà ne sait pas trop où loger, disons-le, à Londres. On est donc en juin 40.
C'est vrai que c'est vraiment le dénuement, c'est-à-dire qu'il est seul finalement avec son aide de camp, Geoffroy de Courcelles. Il a rencontré Jean Monnet quelques jours avant le 17 juin, où il annonce à sa femme qu'il est la France, qu'elle le prend d'ailleurs avec une certaine distance. Et la vraie question que va se poser pour le général de Gaulle, c'est effectivement d'exister aux yeux du gouvernement britannique, parce que il y a un gouvernement légal en France, qui est celui du maréchal Pétain. Et puis, le général de Gaulle doit effectivement, pour exister finalement, se donner tous les attraits d'un État, et notamment une sorte d'existence juridique. Et donc ils vont négocier avec le gouvernement britannique, c'est notamment René Pleven qui va négocier ça. Et d'ailleurs, une scène assez émouvante, hein, où il se retrouve dans un petit bureau avec des simples meubles en bois, et René Pleven demande naturellement au général de Gaulle comment nous appeler, sommes-nous une légion, sommes-nous, et le général de Gaulle dit nous sommes la France.
Et un peu dans le même registre, on demande à Paul Reynaud, donc on lui dit mais à qui compareriez-vous ce de Gaulle, parce que personne ne le connaît, qui c'est ce de Gaulle, à qui pourrait-on le comparer dans l'histoire, et Reynaud répond à lui-même. Quelle est l'image du général de Gaulle dans les tout premiers temps dans cette France occupée du tout nouveau régime de Vichy? Éric Roussel.
En réalité, il y a très peu de gens qui le connaissent. Il y a les gens qui l'ont lu, puis les gens aussi qui l'ont mal lu, et qui en ont tiré des conclusions qui ne lui sont pas spécialement favorables. Non, c'est quelqu'un qui en général est mal vu dans l'armée, parce que ses théories ont éveillé soit de fortes réticences, soit la jalousie, parce que il est évident qu'en présence d'un esprit supérieur, et c'était évident dès ses premiers livres, ce genre de réflexe était quasiment obligatoire. Il est donc jalousé, il est mal compris, et au fond, il y a très peu de gens qui le... Et il faut bien dire aussi qu'il n'a pas un caractère facile. C'est une des clés de son... Il le prouvera d'ailleurs par la suite. S'il avait eu un caractère facile, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Donc, il ne cherchait pas... C'est pas quelqu'un qui cherchait à séduire. Il impressionnait. Voilà. Par son... Par, par son et la scène à laquelle vous faites allusion quand il dit, je crois que c'est d'ailleurs, c'est René Cassin.
Oui, pardon, c'est René Cassin.
René Cassin qui était le professeur de droit, donc, qui était chargé d'établir en quelque sorte les premiers statuts de la France libre. Bah, quand il lui dit nous sommes la France, évidemment, bah, ça, c'est quelque chose.
Donc, il faut pouvoir incarner une telle idée.
Il faut bien se placer, se mettre à la place de gens qui sont habitués à être dans des hiérarchies, etc.
C'est ça.
Et puis qui voit, il n'a que deux étoiles en plus, il est général à titre temporaire d'ailleurs. Donc, et en face de lui, qu'a-t-il ? Il a le vainqueur de Verdun, quelqu'un qui est unanimement respecté, que même la gauche, même à l'époque, respecte. Il faut souligner ce point. Quand le maréchal Pétain arrive au pouvoir, il n'éveille pas
le vote des pleins pouvoirs en juillet. Oui,
il n'éveille pas les préventions.
De la gauche.
Qu'on peut imaginer. Ça se fera progressivement quand il sera clair qu'il est pris en main par toute une camarilla d'extrême droite.
Alors ça, c'est quand on compare le chef de l'État officiel, donc le maréchal Pétain, et puis ce personnage assez extraordinaire surgit d'un peu nulle part, le général de Gaulle. Mais face au cabinet britannique, c'est encore plus extraordinaire. Comment expliquer que le Premier ministre Winston Churchill, quand on connaît son passé, ses idées, c'est un homme très conservateur, issu lui-même de la très haute aristocratie britannique. Comment expliquer que Churchill accepte en quelque sorte ce général deux étoiles, ce général de Gaulle ?
Je crois que la grande chance qu'a eu la France, c'est que Churchill était francophile, alors que général de Gaulle était plutôt anglophobe. ce qui expliquera nombre de leurs relations. Et dans ce qu'il pressent de ce qui va suivre, Churchill sait très bien qu'il faut qu'il ait une carte majeure à jouer dans la prochaine étape finalement d'Hitler en Europe, c'est-à-dire l'Angleterre. Et il se dit, je dois jouer cette carte-là. D'ailleurs, dans un premier temps, ce n'est pas le général de Gaulle qu'on vient chercher. Hein. On cherche quelqu'un qui puisse incarner finalement la France légitime, en tout cas celle qui combat. Et finalement, seul le général de Gaulle franchit le pas. Mandel dit que, de par parce qu'il était de confession juive et du fait qu'il était plutôt à la fin de sa carrière, ce n'était plus à lui finalement d'incarner cette France nouvelle. Et donc, il lui transmet le flambeau d'une certaine manière, lui qui avait été le collaborateur de Clémenceau. Alors, il y a une certaine continuité historique entre Clémenceau, le général de Gaulle et finalement aussi les soldats de l'an 2, puisque c'est toujours la France qui se bat pour une certaine idée de la liberté.
Alors il faut autour du général de Gaulle des locaux, une organisation, un cabinet, des structures, un nom, une devise. Il faut un symbole aussi. Qu'en est la fameuse Croix de Lorraine ?
Alors c'est vrai qu'il faut des symboles et d'ailleurs, une petite anecdote, c'est qu'il va y avoir un journal officiel de la France libre, ce qui montre bien que le général de Gaulle s'attache à établir tous les éléments qui caractérise l'État. Et il a fallu effectivement, dans le cadre d'une propagande politique, répondre à la croix gammée d'Hitler. Et le général de Gaulle a eu le choix entre plusieurs croix. Il a choisi la croix de Lorraine.
Qu'il utilisait déjà dès 1938, puisqu'il était colonel à Metz à l'époque, et qu'il utilisait la croix de Lorraine sur l'insigne du 507e régiment de chars de combat qu'il commandait.
Oui, ce qui prouve bien d'ailleurs que parce qu'on a beaucoup dit que l'amiral Muselier, qui le créateur des forces françaises navales libres, avait joué un grand rôle. Ça relativise, à mon avis, son rôle. Si la croix de Lorraine a été utilisée par le général antérieurement, ça, on peut dire que le rôle de Muselier a dû être plus modeste en réalité.
Alors,
d'ailleurs, c'est ce que disait le général à la fin de sa vie. Ben, il est vrai qu'il s'était entre-temps complètement brouillé avec Muselier.
D'où venait-elle cette croix de Lorraine ? Que représentait-elle au fond ? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Du sang et des larmes.
sur Europe 1 du chant des partisans. C'est très émouvant, interprété par le chœur de l'armée française, Franck.
Alors c'est le 1er juillet 1940 que, donc, dit-on, sur proposition du vice-amiral Muselier et en présence du capitaine de corvette d'Argentlieu, cette croix de Lorraine a été adoptée. Donc cette croix à double branche, de couleur rouge. Est-ce que tout ça a une symbolique particulière ? Il faut savoir que cette croix de Lorraine, elle avait, évidemment, elle venait de très très loin. Hein. Au Moyen-Âge, elle avait été, enfin vers la fin du Moyen-Âge, elle avait été l'emblème de René d'Anjou, car on avait rapporté à René d'Anjou un fragment de la vraie croix qui se trouvait justement dans un reliquaire en forme de croix dite de Lorraine, parce qu'il se trouve que René d'Anjou a conquis tout simplement la Lorraine et que ses troupes peu à peu se sont assimilées aux troupes lorraines. Donc, est-ce qu'il y avait une symbolique spécifique dans cette croix de Lorraine, Alexandre Duval-Stalla?
Ben, à l'époque, la Lorraine, comme l'Alsace, est à nouveau occupée. Et bien évidemment, c'est ce symbole de la liberté que représente cette croix. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, André Malraux conduira comme colonel la brigade d'Alsace-Lorraine, composée d'Alsaciens et de Lorrains, pour aller libérer l'Alsace et la Lorraine aux côtés de l'armée française, du général Delattre, et puis des Américains. Donc c'est un symbole très très fort, finalement, de cette lutte pour la liberté de cette terre si chère au cœur des Français.
Alors justement, le 18 juin 1960, au Mont-Valérien, on inaugure une croix de Lorraine au souvenir de tous ceux qui ont combattu. Et puis, le 18 juin 1972, après la mort du général de Gaulle, tout près de sa sépulture, à Colombey-les-Deux-Églises, on érige cette espèce d'immense monument. Nous avons en ligne Alexandre Morat, qui est directeur du mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Bonjour, monsieur Morat.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, à l'occasion du 40e anniversaire de cette gigantesque croix de Lorraine, vous organisez une exposition.
Oui, nous organisons une exposition, et pour faire le lien avec ce que viennent de préciser Éric Roussel et Alexandre Duval-Stalla, je crois important de rappeler cette citation de Winston Churchill qui va en fait ouvrir un petit peu notre exposition et qui dit « J'ai porté beaucoup de croix depuis 1940, mais aucune plus lourde que la croix de Lorraine ». Je pense qu'elle résume.
C'était sa croix à lui, oui.
Voilà, elle résume un petit peu. Alors, l'avantage de cette croix, vous l'avez précisé, c'est une croix à double traverse. Donc, elle permet facilement de se caler contre l'épaule et de la traîner. Mais je crois très honnêtement que l'exposition que l'on va présenter à Colombey, c'est une exposition inédite, puisqu'on va non seulement préciser les origines chrétiennes de cette croix à double traverse. On est, il faut remonter à Sainte-Hélène, les fouilles qu'elle va ordonner sur le Golgotha, la moitié de la croix qui reste en Orient, l'autre
moitié... Oui, vous parlez de Sainte-Hélène, la Sainte, hein, rien à voir avec l'île, bien sûr.
Non, bien sûr, je parle de la Sainte, la mère de Constantin.
Exactement, de l'empereur Constantin.
De l'empereur Constantin, et nous allons traverser, en fait, tout simplement... cette histoire, la Croix de Lorraine à travers la France libre, la Croix de Lorraine sous la présidence de la République. On présente par exemple pour la première fois des éléments des archives nationales, des textes, du papier officiel durant, si j'ose dire, la présidence et le mandat du général de Gaulle. Et on voit par exemple que le général de Gaulle se fait faire lui-même un tampon à Croix de Lorraine. Et au lieu de marquer tout simplement les documents d'un simple vu ou d'une initiale, il met carrément la Croix de Lorraine sur le document pour indiquer que il valide le document qui lui est présenté.
C'est-à-dire que c'est un petit peu son monogramme. Quand il valide un document, il trace lui-même de sa propre main une petite Croix de Lorraine, c'est ça ?
Alors, pour être très précis, il fait même faire un tampon.
C'est un
tampon pour indiquer, si j'ose dire, qu'il a vu lui-même le document. C'est dire, si j'ose dire, qu'il est en parfaite harmonie avec cette croix. Et quand elle est inaugurée le 18 juin 72, elle est souhaitée...
Inaugurée par le président Pompidou, évidemment.
Absolument, par le président Pompidou, et en présence de Madame de Gaulle et de l'ensemble des barons du gaullisme. Il y a un espèce de lien très particulier entre cette croix, qui est un hommage aux Français libres, et bien évidemment, un lien avec la personne même du général de Gaulle.
C'est ça,
car aujourd'hui, on identifie pleinement, si je veux dire, cette croix au général. J'en veux pour preuve d'ailleurs que la mention qui est indiquée en lettres de bronze et qui est apposée sur le granit sur l'esplanade de la Croix de Lorraine à Colombey, il est tout simplement indiqué au général de Gaulle.
Oui, tout simplement. C'est vrai que peu à peu, il y a eu un glissement de symboles et que de la France libre, la Croix de Lorraine en est venue à symboliser le général lui-même, notamment à partir de la période de son retour au pouvoir en 1958-59. Là, on voit tout simplement, par exemple, la Croix de Lorraine rouge sur le drapeau présidentiel lorsqu'il se déplace sur sa voiture, sur son avion, etc.
Absolument, le drapeau présidentiel, mais il y a même une anecdote qui est qui est relaté, qui est posé au général de Gaulle, c'est-à-dire qu'on lui pose la question à la Libération. On lui demande « Souhaitez-vous laisser la croix de Lorraine sur le drapeau tricolore ?» Et le général de Gaulle va répondre par la négative. Il considère que le drapeau tricolore, c'est le drapeau de la France, que cette croix de Lorraine représente, si j'ose dire, une période très précise de l'histoire, ce qui n'empêchera pas lui-même...
Et qu'en quelque sorte, c'est sa croix de Lorraine.
C'est sa croix de Lorraine, ça devient son chiffre. Et pour ceux qui connaîtraient la boisserie que j'invite à venir découvrir à Colombey, le sous-main du général de Gaulle porte une croix de Lorraine avec ses deux étoiles, ces fameuses deux étoiles de général de brigade, c'est-à-dire que même dans son intimité, puisque ce bureau est un lieu très particulier, où il va d'ailleurs rédiger ses mémoires, son sous-main, son tampon encreur sont à son chiffre, croix de Lorraine et étoile.
Alors, puisque vous parlez un peu de la topographie de Colombey les deux églises, il faut préciser que la boisserie dont vous parlez, c'est l'ancienne propriété du général de Gaulle, qui est restée tout à fait intacte et qui se visite. C'est tout à fait émouvant et passionnant à visiter. Et puis, il y a à l'écart de la boisserie, donc en hauteur, cette gigantesque croix de Lorraine dont on célèbre cette année le 40e anniversaire. Et tout près de là, le mémorial. Que visite-t-on dans le mémorial Charles de Gaulle de Colombey?
Le mémorial Charles de Gaulle, c'est une structure extrêmement interactive. C'est-à-dire que pour la plupart de vos visiteurs qui sont des assidus de l'émission et qui sont intéressés par l'histoire, j'imagine qu'ils connaissent parfaitement le mémorial de Caen. Disons que le mémorial de Gaulle à Colombey aujourd'hui est un petit peu sur ce modèle, c'est-à-dire un centre d'interprétation extrêmement interactif qui va tout simplement retracer l'histoire de France à travers les nouvelles technologies et à travers, bien évidemment, la vision de De Gaulle. Nous avions un problème en 2008. De Gaulle, lorsqu'il décède, ne souhaite pas que les Français collectionnent ses boutons, donc on ne pouvait pas faire un musée à Colombey des Églises. On a donc fait un mémorial dans lequel on va pouvoir découvrir son
bureau. C'est une évocation très vivante
de l'ensemble de son époque.
Et puis il y a aussi aux Invalides un historial Charles de Gaulle. C'est aussi une évocation à base essentiellement de documents vidéo du reste. Merci beaucoup Alexandre Morat de nous avoir parlé de cet anniversaire que vous célébrez à Colombey les deux églises. Et merci à nos deux invités, à Éric Roussel, que nous aurons l'occasion de retrouver bientôt sur de tout autres sujets encore, et Alexandre Duval-Stalla qui a eu l'idée de cette émission, et donc je l'en remercie. Il faut de temps en temps comme ça me souffler de bonnes idées. Merci beaucoup.